Le Premier ministre affirme que son gouvernement ne sera pas seulement de droite. « Je ne suis pas sectaire », affirme Michel Barnier après sa nomination à Matignon. Le haut-commissaire Louis Lefranc prolonge les mesures qui encadrent actuellement la vente d'alcool jusqu'au 15 septembre. L'interdiction de rassemblement en vigueur à Nouméa est en revanche étendue aux communes de l'agglomération. La journée porte ouverte à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, c'est aujourd'hui à Nouville et à Koné simultanément. Elle s'intéresse principalement aux futurs bacheliers. Reportage sur place dans un instant. Le sport, c'est du football. L'équipe de France rate sa rentrée en Ligue des Nations. Les Bleus de Kylian Mbappé se sont inclinés face à l'Italie 3 buts à 1. Et puis pas de médaille d'or aujourd'hui pour le camp français aux Jeux Paralympiques de Paris. Pas de podium non plus au lancer du poids pour le Calédonien Kavakava. Il a signé toutefois sa meilleure performance de la saison. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Info Weekend. Il a donc la très lourde tâche de former un gouvernement dans un contexte politique inédit sous la Ve République. Michel Barnier, nommé hier Premier ministre, accordait ce matin pour nous son premier entretien télévisé. C'était aux 20h de TF1. Et il a d'abord réagi justement à la difficulté de la tâche qu'il attend.
Je sais que c'est difficile en raison de cette situation inédite au sein de l'Assemblée nationale. Je n'oublie pas le rôle du Sénat aussi, qui est très important. Je sais que c'est difficile, mais moi, je me suis toujours fait une certaine idée de mon pays et de la France. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Et je pense que c'est le moment que chacun, à sa place, retrousse les manches. Et moi, je vais le faire.
Fort de sa longue expérience politique et d'une réputation de fin négociateur, Michel Barnier dit vouloir être à l'écoute de tous en respectant toutes les idées. Si le Premier ministre n'a pas encore donné les noms des ministres qui formeront son gouvernement, il a tout de même donné quelques indications.
Ce ne sera pas seulement un gouvernement de droite, comme je l'entends dire ici ou là. Je n'ai pas besoin de rappeler d'où je viens. Moi, je viens du gaullisme social. Je suis un républicain, humaniste et fier de m'être engagé derrière le général de Gaulle très, très tôt. Je suis européen aussi, mais pas n'importe quelle Europe, une Europe utile et concrète. Donc, il y aura des gens de ma famille politique. Il y aura naturellement des hommes et des femmes de bonne volonté qui appartiennent à la majorité sortante. Et puis, je ne m'interdis pas de réunir autour de la même table des hommes et des femmes qui ont des compétences. Mais si vous me demandez
des
quel est le critère... Oui, des gens de gauche. Je n'ai jamais été sectaire. Et donc, je pense qu'il faut ouvrir la porte. J'avais mes convictions, mais je n'ai jamais été sectaire. Donc, il faut ouvrir la porte et ouvrir la table à tous ceux qui le voudront.
Interrogé par Anne-Claire Coudray sur ses rapports avec le Rassemblement national, Michel Barnier s'est dit très éloigné des thèses du parti de Marine Le Pen, qu'il n'a d'ailleurs pas rencontré à ce stade, et s'il n'exclut pas l'introduction d'une dose de proportionnelle aux élections législatives, réclamée par le RN justement, il a un discours très ferme sur la question de l'immigration.
Il y a toujours le sentiment que les frontières sont des passoires et que les flux migratoires ne sont pas maîtrisés. Donc nous allons en effet maîtriser les flux migratoires, pas avec de l'idéologie, pas avec des discours et des phrases, mais avec des mesures concrètes, des propositions concrètes de mon propre parti, mais il y a eu d'autres propositions un peu partout. Je les écouterai. Personne n'a le monopole des bonnes idées. Je veux qu'on traite les problèmes.
Oui, Michel Barnier qui dit également vouloir améliorer la réforme des retraites au profit des plus fragiles et qui souhaite dire la vérité sur la nécessité de maîtriser les dépenses publiques. Il faut également retrouver la croissance et pour cela, dit-il, faire confiance aux entrepreneurs.
La croissance, elle vient d'où ? Elle ne tombe pas du ciel, elle ne vient pas d'administration, elle vient des entreprises, petites, grandes ou moyennes, elle vient des agriculteurs, elle vient des pêcheurs, elle vient de notre commerce extérieur, elle vient du rôle des Français de l'étranger, qui ont 3 millions de Français qui défendent une partie de l'influence française à l'étranger. Donc, elle vient de nos départements et de nos régions d'outre-mer, que je connais bien, dont je vais m'occuper. Donc, on a plein d'atouts dans ce pays. Il faut être lucide, il faut dire la vérité, je dirai la vérité, même si elle est difficile, parce que la situation est extrêmement grave, mais il y a aussi des raisons d'espérance.
Nos outre-mer que je connais bien et dont je vais m'occuper, une formule qui pourrait suggérer que le Premier ministre entre en suivre de près les dossiers de l'outre-mer, et on pense bien sûr à la Nouvelle-Calédonie, mais il faudra attendre d'en savoir plus au moment de l'annonce de la composition du gouvernement, sans doute en début de semaine. Quant à ses rapports avec Emmanuel Macron, Michel Barnier affirme qu'il ne s'agit pas d'une cohabitation et qu'il a bien l'intention de gouverner.
Nous sommes dans une nouvelle époque. Hier, j'ai évoqué une nouvelle page et donc de nouvelles méthodes, un gouvernement responsable et qui a de l'indépendance. Le gouvernement gouvernera. Il est le président de la République et j'ai du respect pour la fonction et pour l'homme. J'ai connu déjà des cohabitations dont j'ai été un des ministres et nous ne sommes pas dans cette situation-là. Simplement, je dirais, pour résumer ma conviction et la manière dont je vais travailler, le président doit présider, le gouvernement doit gouverner.
Pas d'indication précise, donc vous l'avez compris pour l'instant, sur la composition du gouvernement au cours de cette première journée à Matignon. Michel Barnier a consulté différentes personnalités, à commencer par les cadres des Républicains, sa propre famille politique. Alors Alexis de La Fontaine, les LR sont-ils prêts à participer à cette nouvelle équipe gouvernementale ?
Eh bien, il est encore trop tôt pour l'affirmer, mais les Républicains ont très envie de revenir aux affaires. Après 12 ans d'opposition parlementaire, la droite veut maintenant imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. En coulisses, Laurent Wauquiez tenterait d'obtenir plusieurs ministères de premier plan, notamment Bercy et Beauvau, selon un cadre des Républicains. Mais Bruno Retailleau assure vouloir se concentrer avant tout sur le programme de gouvernement.
Le choix que nous faisons, ça n'est pas le choix de la facilité, mais de la responsabilité. Hors de question de voir la France s'enfoncer, un pays qui est bloqué, une démocratie empêchée. Donc ce choix de la responsabilité a consisté à faire en sorte qu'on évite évidemment le pire. Le pire pour nous, c'était un gouvernement d'extrême gauche.
Coup double donc pour les Républicains. D'un côté, ils évitent un Premier ministre issu du Nouveau Front Populaire et de l'autre, ils espèrent faire pencher le gouvernement à droite le plus possible.
Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1. Outre les Républicains, Michel Barnier s'est entretenu avec son prédécesseur, Gabriel Attal, désormais chef du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale. Trois autres entretiens avec d'anciens premiers ministres sont prévus ce week-end, Elisabeth Borne, Jean Castex et Édouard Philippe, mais aussi avec le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. 70% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il ne va pas être possible de réunir les partenaires politiques calédoniens à Paris fin septembre ou début octobre, comme le souhaite le président de la République. Ils sont 30% à penser que cela sera possible. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour.
Info week-end, il est 12h07.
Le haut-commissaire Louis Lefranc a donc décidé hier de prolonger les mesures qui encadrent actuellement la vente d'alcool sur le territoire, et ce jusqu'au 15 septembre. Elle sera donc possible à nouveau la semaine prochaine chez les cavistes et dans les grandes surfaces, du lundi au jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à midi. Le haut-commissariat précise toutefois que ces mesures ne s'appliquent pas dans les communes qui ont fait l'objet de mesures plus restrictives par les commissaires délégués. Par ailleurs, le couvre-feu de 22h à 5h est maintenu jusqu'au 16 septembre et l'interdiction de toute manifestation, rassemblement et cortège qui était en vigueur pour la seule ville de Nouméa jusqu'au 30 septembre est étendue désormais aux communes de Païta, d'Imbéa et du Mont-d'Or. 90 hectares sont partis en fumée dans l'incendie de Watom à la fois hier. Des maisons et la ferme photovoltaïque ont été un temps menacées, notamment en raison des vents forts sur la zone qui ont compliqué le travail des soldats du feu. Heureusement, le sinistre a été maîtrisé hier en fin d'après-midi sans pour autant être éteint. Des risques persistent aujourd'hui, nous a dit ce matin le capitaine Maël Kerléguer, le commandant des opérations de secours de la FOI.
Dans la nuit, on a des équipes qui sont restées dans la zone à surveiller. Le vent fort, il a continué jusqu'à tard hier soir. Donc on est resté en surveillance de ça et c'est même pas fini encore aujourd'hui, on continue la surveillance dans la zone. Le feu n'est pas éteint, on a encore des gros foyers en activité à l'intérieur même du sinistre. On a pu le maîtriser, là il se propage plus sur les lisières de l'incendie, il n'y a plus de points chauds, mais on reste en surveillance et vigilant compte tenu des forts vents qui sont annoncés aujourd'hui, quoi, qui commencent déjà à se faire ressentir. Ah là, il faut des moyens qu'on n'aurait pas et même ça serait beaucoup d'énergie dépensée alors qu'on n'est même pas sûr de pouvoir éteindre complètement ces foyers-là, quoi.
Un peu moins d'une dizaine de véhicules de pompiers étaient engagés pour lutter contre les flammes, dont 4 véhicules légers. Autre incendie à Nouméa, cette fois dans le quartier de Sainte-Marie ce matin. Il s'agit d'un sinistre accidentel dans une maison à un étage. Le propriétaire effectuait des travaux de soudure lorsque le feu s'est déclaré et s'est rapidement propagé. Les pompiers sont intervenus, ils ont maîtrisé le sinistre qui n'a fort heureusement fait aucun blessé. Midi 9, dans un instant, la suite de l'actualité.
Le réseau national des CCI se mobilise. Votre chambre s'entoure d'experts pour renforcer son aide auprès des entreprises impactées par la crise. Bénéficiez gratuitement jusqu'à 4 heures d'accompagnement par des consultants financiers, juridiques et en droit des assurances. Contactez-nous à soutien@cci.nc ou au 05 03 03. Vos conseillers CCI sont à votre écoute. Vous aider est notre priorité.
rêvez d'une salle de bain moderne, DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal, on retrouve Gilles Ménage.
Je vous le disais en titre, l'Université de la Nouvelle-Calédonie ouvre ses portes aujourd'hui. Les lycéens et leurs familles, bien sûr, peuvent venir découvrir une cinquantaine de formations proposées par l'UNC. Charlotte Coulson.
Cette journée portes ouvertes vient remplacer le Salon des études supérieures qui se tient normalement fin juillet à Nouville. Il a cette année été annulé. Pour autant, le public était au rendez-vous au plus grand plaisir du personnel de l'université. Pour Sylvian Raffard-Artigues, directeur de la communication de l'UNC, cet engouement est important maintenant plus que jamais.
Ça se passe très bien. On est quand même très content de voir que les gens répondent à l'appel. Quand on organise un événement comme ça, on se demande toujours si les gens vont venir. Mais là, au final, il y a beaucoup de monde depuis même avant l'ouverture. Heureusement, c'est pas mal mobilisé avec les collègues et les étudiants. Hein. Vous avez vu donc tous les gens qui sont avec les tenues de l'UNC sont nombreux pour accueillir le flux de personnes. Mais on est content parce que d'habitude, au salon de l'étudiant, c'est pareil. Cette journée du samedi, c'est la journée des familles. On voit en fait que c'est le même public qui vient. C'est des jeunes qui viennent avec leurs parents. C'est sûr que l'université, sa vocation, c'est de former les futurs cadres. J'ai envie de vous dire qu'on n'a jamais eu autant besoin d'université. Ça prend du temps de former en fait des dirigeants et les responsables du pays. Mais justement, si on a l'outil sur place, c'est encore mieux pour le développement de la Nouvelle-Calédonie.
Et depuis 9h ce matin, les familles et leurs enfants arpentent la cour de l'université qui accueille de nombreux stands. Certains viennent avec une idée précise, d'autres découvrent les formations proposées. Toutes et tous se satisfont des échanges avec les étudiants des différentes facultés.
On vient de remercier des personnes qui se sont occupées du salon parce que justement, on a eu très peur qu'il n'y en ait pas et c'est vraiment super pour nos jeunes qui puissent venir rencontrer des interlocuteurs de la formation.
Alors oui, je suis parti plus sur un domaine scientifique, notamment en mathématiques et en physique. Je suis en train de voir si peut-être une formation avec de l'informatique pourrait m'intéresser. Ça m'aide clairement parce qu'on voit vraiment ce qui va nous attendre l'année prochaine. On sait ce qu'on va pouvoir faire et où est-ce que ça va nous mener à l'avenir après l'université. Et c'est vraiment pratique de pouvoir rencontrer des gens qui, eux, le vivent, des gens qui nous le présentent plutôt.
Oui, ça m'a beaucoup aidé par rapport au programme, à comment ça se déroule en classe.
Moi, j'avais pas trop d'idées au début, mais je trouve que ici, ils proposent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui m'attirent, quoi.
Du coup, j'ai fait qu'un stand, celui qui me concernait au niveau du premier degré. Et ça m'a confortée sur mon choix. Du coup, je suis plus sûre de moi, du métier que je veux faire plus tard.
Un événement important qui permet aux lycéens de construire leur parcours scolaire. Didier Vindatiche, vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, était présent sur place. Il tient à rappeler que l'échéance Parcoursup arrive bientôt.
L'enjeu est tout à fait essentiel, hein, puisqu'il s'agit pour eux de construire leur parcours scolaire et universitaire. Et donc, il faut qu'ils se documentent pour pouvoir construire ce projet. Alors, bien sûr, il y a des événements calendaires importants. Hein, la fin de Parcoursup, bientôt. Donc, il faut que les étudiants aient bouclé leurs projets d'orientation qui vont être étudiés par les grandes écoles et les universités. C'est aussi un événement important parce que, en plus de ce salon, toute la semaine prochaine, il y a la semaine de l'orientation dans les établissements pour que les élèves puissent faire leur choix et être éclairés sur les grands choix qu'ils ont à faire. En revanche, ici, c'est tout public, tout le monde peut venir, tous les lycéens, les futurs étudiants, leurs familles, comme vous le voyez, et l'événement marche bien parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde ce matin.
Et la journée portes ouvertes se tiendra à Nouville jusqu'à 15h cet après-midi. Quant aux lycéens de la province nord, une journée leur est également dédiée au centre Théry de Conné jusqu'à 13h.
Merci Charlotte Coulson. Dans l'actualité festive, l'Art Factory à Nouméa accueille le grand public aujourd'hui et demain pour le rendez-vous Art and Food Market. Des produits variés sont à découvrir, des bijoux, de l'épicerie fine, de la mode, de l'artisanat et bien d'autres. Le tout dans un cadre sur mesure face au Quai Ferry et accompagné de concerts, de défilés et d'expositions. Une quarantaine d'exposants sont sur place, heureux de participer à cette première édition.
Nous, c'est l'entreprise Pacifique Fumoir, spécialisée dans le fumage des produits de la mer. Donc nous, à la vente, aujourd'hui, on va avoir du marlin fumé, on va avoir du poulpe fumé, des crevettes fumées, une planche de dégustation découverte. Donc dedans, on va avoir du marlin fumé sur un pain de seigle noir avec du miel aux zestes de citron. On va avoir également dedans donc des crevettes fumées et une petite brochette de poulpe fumée.
Une satisfaction de pouvoir être présent pour ce rendez-vous.
Pour nous, c'est une première à l'Art Factory parce que c'est quand même un bel endroit et nous, ça nous fait plaisir d'y participer.
Moi, c'est Camille, je suis le gérant de la bijouterie à Moretti, en centre-ville. Ça peut faire découvrir notre magasin par une autre clientèle, par exemple, et puis, pour des curieux.
Moi, c'est Céline, c'est les Jardins du Cap. Alors nous, on transforme les produits de notre jardin. Donc on fait des confitures, achats, sirop, miel. Et il y a une partie cosmétique et savon aussi où on utilise des produits de notre jardin. Vu la situation en ce moment, eh ben, on essaye de faire un maximum. Quoi.
Moi, c'est Muriel de la boutique LM au quartier latin. Donc moi, je m'occupe en fait des arts de la table, du linge de maison, des cadeaux et de la déco. Et donc je suis venue aujourd'hui proposer aussi des prix salon et des prix soldes, des belles choses. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. En ce moment, on en a particulièrement besoin. C'est un petit coup de pouce aussi, je dirais, pour le commerce. On souffre quand même beaucoup. L'activité est quand même très réduite, ce qui est bien logique. D'où aussi les petits prix que tout le monde propose ici sur ce salon. Et puis j'avoue que Pacific Fair organise toujours très bien ces salons. Donc c'est pour ça aussi que j'ai souhaité répondre, parce que je savais que la clientèle serait au rendez-vous et le cadre en plus est exceptionnel.
Des propos recueillis ce matin par Mickaël Juneski. Un rendez-vous Art and Food Market qui se déroule aujourd'hui samedi jusqu'à 19h ce soir et demain de 10h à 19h. La commune de Dimbéa organise de son côté un nouveau rendez-vous 100% gratuit qui s'appelle les rendez-vous du samedi. C'est de 15h à 17h cet après-midi. Le premier événement se tient au Big Up Spot de Coutiot et les Calédoniens pourront s'initier aux jeux de société, aux échecs, mais aussi à la boxe. Et puis toujours aujourd'hui, la CAPA organise dans ses locaux du Faubourg Blanchot un vide-grenier et son traditionnel loto. Et enfin, demain, direction le marché de Mamie à Farino, qui proposera des dégustations de son célèbre verre de Bancoula.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 12h16.
Et à la une de l'actualité régionale, le pape François est depuis hier soir à Port-Moresby, où il entame aujourd'hui une visite officielle en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Récit Jean-Pierre Zajac.
La première journée du Saint-Père débutera par une visite de courtoisie au gouverneur général et représentant de la couronne d'Angleterre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sir Bob Daday. D'après le Vatican, il rencontrera ensuite les autorités locales, les membres de la société civile et le corps diplomatique. En cours d'après-midi, il recevra les évêques de Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles Salomon, ainsi que des diacres, des prêtres, des religieux et religieuses, des séminaristes et des catéchistes. Après avoir reçu le premier ministre papou James Marape à la Nonciature apostolique dimanche matin, le pape se rendra au stade John Guise de Port-Moresby, où il célébrera la messe en présence d'environ 40 000 personnes, dont certaines ont marché pendant des semaines pour y assister. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Dans l'actualité en métropole, à présent, la Fondation Abbé Pierre va changer de nom, annonce faite la nuit dernière pour nous, après 17 nouveaux témoignages qui accusent le prêtre de violences sexuelles. Pour rappel, l'abbé Pierre est visé au total par 24 accusations du même type. Ces faits se seraient produits dans les années 50 et entre les années 50 et les années 2000, et certains auraient été commis sur des mineurs. Ce matin, la Conférence des évêques de France dit son horreur face aux témoignages des victimes. Et puis la cinquième journée du procès hors norme des viols de Mazan, affaire particulièrement sordide, s'achevait cette nuit pour nous. Dominique Pellicot est jugé à Avignon pour avoir drogué sa femme et l'avoir donné en pâture sexuelle à des dizaines d'individus recrutés sur Internet. Une journée marquée par la prise de parole de la fille de la victime, qui a également été victime des agissements de son père, Guillaume Dominguez, pour Europe 1.
Caroline Darian, qui est apparue émue mais déterminée à la barre, elle est d'abord revenue en détail sur le jour où, je cite, sa vie a littéralement basculé. Ce soir du 2 novembre 2020, où sa mère Gisèle l'appelle au téléphone pour lui parler de son père. « Il me droguait pour me violer avec des inconnus », raconte-t-elle froidement, la gorge serrée, reprenant les paroles de sa mère ce soir-là. Puis elle poursuit et revient en détail sur ses entretiens avec la police. « Je reverrai toujours mon petit frère s'affaisser », décrit-elle, au moment où l'un des policiers estime entre 30 et 50 le nombre d'agressions agresseur de sa mère. Comble de l'horreur, Caroline Darian raconte également à la barre les sévices que lui a fait subir son père, qu'elle considère aujourd'hui comme étant l'un des plus grands criminels sexuels de ces 20 dernières années. Lors d'une nouvelle rencontre, les enquêteurs lui montrent la photo d'une femme nue. Caroline se reconnaît. Je découvre alors qu'il m'a photographiée à mon insu, dénudée, explique-t-elle à la barre. Des photos que son père a diffusées sur Internet. Une journée d'audience marquée également par le témoignage des deux belles filles de Dominique Pellicot, elles aussi victimes des mêmes agissements.
Compte rendu d'audience signé Guillaume Dominguez pour Europe 1. Il est midi passé de 20 minutes précisément. Dans un instant, toute l'actualité sportive.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Jusqu'au vendredi 20 septembre, gagnez un séjour à l'hôtel de Poé ainsi qu'un vol au-dessus du plus beau lagon du monde. Un cadeau d'une valeur de 122 000 francs. Vous séjournerez 6 nuits en bungalow tout confort, cuisine équipée, terrasse et jardin privatif, offert par l'hôtel de Poé ainsi que deux vols offerts par Cap ULM. Pour jouer, c'est facile. Envoyez maintenant chance au 3146. L'hôtel de Poé et Cap ULM vous accueillent toute l'année dans une ambiance conviviale et familiale. Toutes les actus sur la page Facebook de l'hôtel. Attention, tirage au sort vendredi 20 septembre à 14h, 148 francs le SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
Et avant de retrouver Gilles Ménage, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et à la une de l'actualité sportive, Michael Juneski du football avec l'équipe de France qui commence la Ligue des Nations par une défaite contre l'Italie.
Mauvais temps pour les Bleus qu'on retrouvait dans une nouvelle compétition face à la Squadra Azzurra. Si l'ouverture du score après 12 secondes de match signé Barcola donnait tout de suite le sourire aux supporters français, Mbappé et ses coéquipiers se sont retrouvés ensuite incapables de tenir la cadence contre les Italiens. Les Italiens parviennent à égaliser puis à reprendre l'avantage. 3 buts 1, score final, des buts signés Di Marco, Fratesi et Raspadori. Il faut se remettre en question selon le gardien français Mike Maignan.
C'est une défaite qui fait mal parce qu'on voulait repartir après l'Euro sur une victoire. Malheureusement ce soir on n'a pas su le faire. Ça a été un jour sans, ça a été difficile, il faut se reprendre. On va se remettre en question et repartir de l'avant. Et
c'est une déception également pour le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps.
Mis à part les 20 premières minutes, et après on était un peu entre deux, entre des joueurs qui sont positionnés haut et trop d'espace. Donc à partir de là, avec des bons joueurs en face, évidemment des erreurs de notre part, mais ça fait mal, mais il ne faut pas fuir, c'est ma responsabilité, ça l'a toujours été. Il faut être factuel. Avec tout le potentiel qu'on peut avoir, aujourd'hui, on a eu des manques. On est en dessous par rapport à notre adversaire.
Et les Bleus qui retrouveront dès mardi l'équipe de Belgique pour la deuxième journée du groupe 2 dans cette Ligue des Nations. Les Belges ont pour leur part corrigé Israël sur le score de 3 buts à 1 aujourd'hui. Et puis notez que de leur côté, les Bleuets ont fait match nul face à la Slovénie en qualification à l'Euro Espoir sur le score de 1 but partout.
On passe au tennis, Mickaël, avec la suite de l'US Open.
Et les demi-finales, Yannick Sinner qui fait face au Britannique Jack Draper et un duel 100% américain entre Taylor Fritz et Frances Tiafoe. Chez les dames, en double, l'aventure s'est arrêtée pour la paire franco-chinoise Mladenovic Zhang, éliminée dans le dernier carré par le duo Kitcheno-Kostapenko, 6-4-6-3. Je rappelle que chez les féminines, la finale en simple se disputera entre l'américaine Jessica Pegula et la Bélarusse Aryna Zabalenka.
En cyclisme, Primoz Roglic frappe un grand coup avant la fin du Tour d'Espagne.
Ouais, le Slovène a remporté la 19e étape de la Vuelta. Il a surtout réalisé une bonne opération en prenant le maillot rouge de leader à Ben O'Connor à 2 jours de l'arrivée. Roglic a creusé un écart d'une minute 54 secondes sur l'Australien de l'équipe Decathlon AG2R la mondiale. Le meilleur français au général, c'est David Gaudu. Il est en 5e position. La 20e et avant-dernière étape sera à suivre ce soir à partir de 22h pour nous.
Les sports mécaniques avec la suite des championnats du monde des rallyes et de MotoGP.
Le rallye de Grèce tout d'abord et l'Estonien Ott Tänak qui a pris la tête du classement sur Hyundai à l'issue des 6 premières spéciales. Le français Sébastien Ogier qui avait les commandes du classement a été victime d'un problème mécanique. Et puis en MotoGP au Grand Prix de Saint-Marin, l'Italien Francesco Bagnaia a dominé les essais libres. Meilleur chrono pour le pilote Ducati devant Marc Marquez et Jorge Martin. Fabio Quartararo s'est classé 9e. Il se hisse donc directement en deuxième session des qualifs, alors que l'autre Français, Joan Zarco, a réalisé le 15e temps.
Et on prend maintenant la direction de Paris pour la suite des Jeux paralympiques.
Les pages spéciales des Jeux paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et le camp français figure désormais, Mickaël, au 6e rang du classement des médailles. Il n'y a pas eu de titre aujourd'hui pour la délégation tricolore.
Un total de 65 médailles, dont 17 en or, 24 en argent, 24 en bronze pour les Bleus. La Chine reste en tête avec 188 médailles, dont 83 en or, devant le Royaume-Uni. Et ses 42 titres sur 100 podiums, les États-Unis sont 3e. Aujourd'hui, les Bleus ont tout de même décroché 4 médailles, 3 en cyclisme sur route, des médailles d'argent pour Kevin Le Kempf et Heidi Gauguin en course en ligne donc, et puis en bronze pour le duo Alexandre Loveras et Johan Payos en tandem. Du bronze également pour Emeline Pierre en paranatation sur l'épreuve du 100 mètres d'eau S10. Côté calédonien, Vittorio Cavacava n'a pas réussi à monter sur le podium du lancer de poids, mais il a réalisé sa meilleure performance de la saison, 12,99 m sur cet enchaînement de 6 lancers des 4 kilos réglementaires en 10 minutes devant 65 000 personnes au Stade de France. Il s'est classé à la 6e place du concours. Une performance plus qu'encourageante pour celui qui vise à 24 ans les Jeux de Los Angeles en 2028. Son record personnel est toujours de 13,32 m. Le vainqueur de cette finale est l'Iranien Yassine Khosravi. Il s'est imposé avec un lancer à 15,26 m.
C'était les pages spéciales des Jeux paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et à la une du sport en Calédonie, pas de reprise, hélas, aujourd'hui pour le VAAL. La compétition qui devait se dérouler n'a pas pu avoir lieu. Et ce, Mickaël, en raison des restrictions imposées par le Haut Commissariat.
Oui, le championnat de Calédonie longue distance V1 devait conduire près de 90 participants dans des courses au large de Nouméa, quasiment 4 mois après le dernier rendez-vous du VAA. Les épreuves ont finalement été annulées en raison des mesures interdisant les rassemblements sur la voie publique. Pour les pratiquants, c'est évidemment une grande frustration, alors que les rameurs attendent avec impatience la reprise des compétitions et surtout de pouvoir se fixer leurs prochains objectifs s'ils souhaitent représenter la Calédonie sur la scène régionale et internationale. C'est ce que nous a dit l'un de nos champions, Albert Minguet, du club Geffroy Sport.
Il y a une bonne reprise au niveau des pratiquants du VAA depuis après les émeutes. Là. On a pu constater que beaucoup de monde était revenu dans le sport, donc je félicite tout le monde, car avec tout ce qui se passe, c'est vraiment difficile la vie actuelle. Voilà, le sport, ça nous permet de voir autre chose et de penser à autre chose. Conditions météorologiques au top aujourd'hui, normalement pour cette compétition qui aurait dû avoir lieu. Beaucoup de découragement au niveau des rameurs parce qu'ils attendaient cette compétition vraiment sur le coup. Quoi. Malheureusement, on n'a pas de compétition et on ne sait pas quand les compétitions vont reprendre sur le territoire. On a beaucoup de jeunes aussi qui reviennent pour s'entraîner. Ben, les parents et puis les oncles, tout ça, ils amènent la jeunesse. Bon, malheureusement, aujourd'hui, les 80 personnes, ils sont chacun dans leur club pour s'entraîner. Bon, après, c'est comme ça et puis on attend le jour J, quoi.
Les Calédoniens ont déjà dû faire l'impasse sur les mondiaux de la discipline. Un seul représentant était sur place au mois d'août, alors que la crise a contraint la majorité des clubs et des pratiquants à annuler ce qui aurait dû être l'un des grands moments de la saison face aux meilleurs rameurs internationaux à Hawaï.
Un coup d'œil, Mickaël, au reste de l'actualité sportive de ce samedi avec du football.
Ouais, suite et fin de la 3e journée du trophée du Grand Nouméa cet après-midi. Deux rencontres au Parc des Sports de Coutiou en ouverture à 14h. Gaïcha sera opposé à Magenta. À suivre ensuite à 15h45 le match entre Wetch et Melek. Et puis de son côté, la sélection calédonienne continue sa préparation en vue des qualifications à la Coupe du Monde. Et les joueurs de Johan Sidaner affronteront cet après-midi l'équipe de Tigasport. Un match qui débutera à 15h. Il se jouera à huis clos sur la pelouse du stade Nouma Delhaye.